radio en direct.
À la maison, en voiture, sur mobile, France Inter, à portée de voix.
Vous écoutez France Inter, bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver au petit matin en ce vendredi 26 avril, il est 5h.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Et bienvenue donc au sommaire ce matin, réveil matinal, mode d'emploi. Tendez l'oreille si vous êtes déjà debout comme notre invité de 6h moins le quart, il vous dira tout. Un réveil en douceur, planant même, ce sera avec un live légendaire de Portishead dans la playlist de Mathieu Conquet. Réveil poétique avec les petits bateaux et ce jeune auditeur qui se demande pourquoi les papillons sont-ils beaux. Et puis pour réfléchir au saut du lit et en dehors des frontières, aujourd'hui vous pouvez compter sur Café Philo juste avant 6h. Bienvenue sur France Inter, nous sommes ensemble en tête à tête pour une heure. En tête à tête, mais avec toute l'équipe, toute la rédaction, bien sûr, dont Florence Paracuellos pour le journal. Bonjour Florence.
Bonjour Marion, bonjour à tous. C'est un port temporaire qui va faciliter l'arrivée des aides humanitaires à Gaza. Des soldats américains viennent de commencer la construction d'une jetée prévue pour être opérationnelle début mai dans l'enclave palestinienne bombardée et assiégée par l'armée israélienne depuis plus de 6 mois. Omar Waman a recueilli le témoignage rare d'un réserviste israélien de retour de l'enclave où il a combattu le Hamas, il a pu constater la dévastation du territoire.
Daniel, la trentaine, a passé un mois dans la bande de Gaza. Ce qui l'a frappé, c'est l'ampleur des destructions.
Le paysage est détruit. Il n'y a pas une fenêtre qui tient. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maisons qui sont totalement détruites. Une espèce de chaos.
Un chaos généralisé et de nombreuses victimes des frappes de l'armée israélienne.
J'ai vu en effet des cadavres, visiblement des gens qui avaient été tués lors de bombardements, qui étaient dans les décombres. Personne n'est préparé à quelque chose d'une telle ampleur en termes de destruction, en termes de cadavres dans la bande de Gaza.
Ce franco-israélien a également été témoin de la souffrance des habitants de l'enclave palestinienne.
En effet, la population civile palestinienne qu'on voit, elle est dans un état de désespoir assez avancé. Moi, personnellement, je ne suis pas de ceux qui sont contre l'entrée d'aide humanitaire. Il faut, au contraire, faire entrer l'aide humanitaire en masse. Et je pense même que cette aide humanitaire, elle est une condition pour que Israël continue son opération dans la bande de Gaza.
Après cette mission, Daniel avoue qu'il a besoin, comme des milliers de soldats de l'État hébreu, d'une assistance psychologique.
Oui, c'est sûr que ça nous travaille. Je pense qu'il y a des soldats qui en ont pour l'instant plus besoin que moi. Quand la situation se calmera un petit peu, on s'en occupera aussi.
Ce que souhaite par-dessus tout ce soldat qui se dit de gauche, c'est que les responsables du fiasco sécuritaire du 7 octobre rendent des comptes.
Omar Waman, envoyé spécial de France Inter en Israël avec Éric Audra. La France envisage de nouvelles sanctions contre les colons israéliens coupables de violences sur des civils palestiniens en Cisjordanie, annonce de l'Élysée. Après un coup de fil entre Emmanuel Macron et le roi de Jordanie, depuis le mois de février, 28 colons sont visés par une interdiction administrative du territoire français. Puis pour la deuxième journée, quelques dizaines d'étudiants ont occupé un nouveau bâtiment de Sciences Po Paris hier soir. En soutien de la cause palestinienne, la police avait évacué un autre site de l'établissement la veille.
À 5h03 sur France Inter, cette question, Florence, quelle note pour la France en économie?
Les deux grandes agences de notation Fitch et Moody's rendront leur verdict ce soir sur l'état de la dette française. Elle dépasse les 3 milliards d'euros avec un déficit public au-dessus de 5% du PIB. Les notes des agences, quand elles baissent, peuvent faire augmenter les taux auxquels les pays empruntent. 2 millions de bouteilles détruites, la Direction Générale de la Santé précise que c'est à sa demande que Perrier l'a fait après la découverte de matières fécales et de bactéries dans l'eau captée dans le puits de Vergèze près de Nîmes, sans doute dû au déversement d'eau usée lors d'une tempête le 10 mars dernier. Et dans cette commune du Gard à Vergèze où Perrier fait travailler 800 à 1000 personnes, on s'interroge, Rémi Brancato, sur les contrôles sanitaires menés dans l'usine.
À Vergèze, la plupart des habitants font confiance à Nestlé, mais Fabien s'interroge.
On n'a pas le droit de regard, rien du tout. Nestlé, c'est intouchable.
Comme lui, ses ouvriers du centre-ville se questionnent sur l'annonce des 2 millions de bouteilles détruites.
C'est énorme, est-ce qu'il n'y a pas plus?
C'est sûr et certain, ils ne disent pas tout.
Il s'agit de l'eau produite entre le 10 et le 14 mars, juste après la tempête, mais l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, avait alerté avant et demandé un plan de surveillance renforcé.
À ma connaissance, ce plan, il a été mis en place.
Pascal Fortuna Deschamps, la maire de Vergèze, n'en connaît pas les modalités.
Cette surveillance-là, elle est assurée par la RS. l'Agence régionale de santé.
Avec ce plan, les analyses et les prélèvements sont plus fréquents, précise la Direction générale de la santé. Claude Rico, vice-président de l'association de consommateurs CNAFAL en Occitanie, demande encore plus de vigilance.
Il faudra peut-être revoir les choses en matière de changement climatique et se dire que, notamment dans le midi, dès l'instant où il y a des pluies diluviennes, peut-être faudrait-il arrêter de puiser de l'eau. Il peut y avoir des bactéries qui peuvent éventuellement engendrer des impacts sur la santé humaine.
L'an passé, Nestlé a dû retirer des systèmes de filtration interdits pour la production d'eau minérale. 2 de ces 7 forages ont été par la suite déclassifiés et servent désormais à produire des boissons aromatisées.
Rémi Brancato, de son côté, le concurrent Danone, se veut rassurant, numéro 2 mondial des eaux en bouteille avec Evian, Volvic et Badoit. Elles font l'objet de contrôles extrêmement rigoureux. Un soin immense est porté aux zones de captage pour les préserver de toute contamination, a assuré hier le patron du groupe. Plus de vin en France en 2023, alors que la production mondiale perturbée par les événements du climat a chuté de 10%. La France, avec 48 millions d'hectolitres produits en hausse de 4%, devient de loin le premier producteur de vin au monde, devant l'Italie et l'Espagne. 150 000 personnes ont changé de nom depuis juillet 2022. La loi a facilité la procédure, utilisée majoritairement par les femmes. Et dans les 2/3 des cas, ce qui a été demandé, c'est de remplacer le nom d'un parent par le nom de l'autre. C'était une figure respectée et récompensée du cinéma français. Le réalisateur Laurent Cantet est mort hier, emporté par un cancer fulgurant à seulement 62 ans. Laurent Cantet, que le grand public avait découvert en l'an 2000 avec Ressources humaines, mais surtout avec son film Entre les murs, Palme d'or à Cannes en 2008. Cinéaste engagé, il avait continué à travailler sur l'humain et l'univers du travail, notamment dans L'Atelier en 2017, l'histoire d'une écrivaine qui anime un atelier d'écriture pour des personnes en insertion à La Ciotat, incarnée par Marina Foïs, qui rend hommage au cinéaste.
C'est quelqu'un qui parlait vraiment du monde qu'il habitait, donc il était très très contemporain et en même temps c'est une figure très anachronique en fait, parce que c'est pas quelqu'un de brillant, c'est pas quelqu'un de frimeur, c'est pas quelqu'un de cynique du tout. Parfois l'artiste peut être très cohérent et qu'il peut y avoir un vrai parallèle entre l'homme et le cinéaste. Évidemment pour moi c'est pas un metteur en scène de plus dans ma filmo, c'est quelqu'un qui m'a marqué, il y en a plusieurs, mais lui il a déposé quelque chose en moi. Ce qui l'animait vraiment Laurent Cantet quand il faisait du cinéma, c'était la recherche du sens. Et la recherche du sens, ça se faisait tout le monde en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le temps des acteurs, le temps de la lumière. Il emmenait tout le monde avec une autorité certaine, mais un calme olympien, beaucoup de rigueur et beaucoup d'humilité. En fait, il nous prévenait les uns et les autres des mouvements d'ego qu'on pourrait avoir et qui nous plantent nous-mêmes. Et moi, il m'a protégé de ça et il m'a appris ça. Et c'est quelque chose qui me reste et auquel je pense souvent.
Marina Foïs avec Nicolas Teilhard sur France Info. Enfin, incontestée en son royaume, Aya Nakamura, artiste féminine de l'année aux flammes. Les victoires du rap et du R&B comme l'an dernier, c'est elle qui a ouvert la cérémonie. Le tenant du trophée masculin plie le game, lui aussi Gazo, de nouveau sacré hier soir. Tous les deux avaient aussi remporté les victoires de la musique cette année.
C'était le journal de Florence Paracuello. Il faisait chaud hein, du côté des flammes, il fait un peu plus froid sur la France aujourd'hui. 5h08.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur euromaster.fr.
Le thermomètre remonte quand même un peu, Élodie Calac.
Un temps instable avec des températures en hausse. Ce matin, c'est bien encombré avec quelques averses. Un peu de neige vers 1300 à 1500 mètres sur le massif central et les Alpes. Des averses plus nombreuses et parfois soutenues de la Provence vers le sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Seulement quelques ondées en revanche de la Touraine vers la région parisienne et les Ardennes. Et de belles éclaircies près des Pyrénées, sur le littoral du Languedoc-Roussillon et sur la Corse. Il fait moins froid, souvent 3 à 10 degrés. Cet après-midi, ce sera changeant. Quelques éclaircies appréciables, mais aussi quelques averses orageuses. Une zone plus active circulera sur les régions de l'Ouest et progressera vers la région parisienne et le centre-val de Loire en fin de journée. Sur la Provence, la Côte d'Azur et le sud des Alpes, là aussi, les averses seront plus nombreuses. Les températures en hausse resteront trop timides pour la saison cet après-midi. 12 degrés à Langres et à Rodez, 15 à Lille, La Roche-sur-Yon, Limoges, 16 degrés à Paris, Lyon et Marseille, 17 à Bordeaux, à Montauban et 19 à Ajaccio.
Élodie Calac de Météo France.
France Inter. Marion Lourd, le 7-10.
5-6.
5h09, le programme de ce matin. Un premier coup d'œil sur la presse, ça sera dans 5 minutes. La chronique d'où ça sort, définition du plein emploi à venir. Juste avant 5h30, l'humour de Tanguy Pastureau qui dévoile ses astuces pour gérer sa colère, et ça peut toujours servir. Et notre invité à 6h20, en pleine campagne des élections européennes et au lendemain du discours fleuve du président de la République hier, c'est le ministre délégué en charge de l'Europe, Jean-Noël Barrot. Et puisqu'on parle d'Europe, à 5h09 toujours, faisons donc voyager nos oreilles avec un chanteur belge, celui du groupe Balthazar. Il s'appelle Jinte Desprez et a lancé son projet parallèle, Jay Bernhardt. C'est son premier morceau depuis 7 ans. Ça va parler à ceux qui rentrent très tard ou ceux qui vont travailler très tôt. Et le morceau s'appelle Taxi.
To the right at the next turn. Please don't turn on the music. I need to empty my head. Need some road noise to reflect on everything she just said. I am not mad, I'm just sad. I've been paying attention, so you've got a point, my bad. Just give it some rest, give it some time. Well, in the end, there's nothing that fucks your heart at any time. Did you give it your all? Give it your all. Did I give it my all? Give it my all. So when two and two now makes five, then I wanna count again. Right from the start, till it makes sense in the end. On to the next town, and don't look behind. But watch out, this is just a crash waiting to happen.
Par Jay Bernhardt, extrait d'un nouvel album à paraître le 17 mai. Les quelques concerts prévus en mai sont complets. Pour le voir sur scène, il faut réserver les deux dates de fin novembre à Paris et Grenoble. C'est l'heure à 5h12 des Chroniques Littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Les Chroniques Littorales du vendredi consacrées, vous le savez, à des portraits de gens de mer. Et ce matin, vous recevez un homme de mer éclectique.
En la personne, Marion, de Philippe Fourier. Philippe Fourier, bonjour.
Bonjour.
Philippe Fourier, breton, c'est Dinan, Dinard.
Dinan, ville médiévale à environ 20 minutes de Dinard, mais une superbe ville avec un périmètre de rempart tout à fait impressionnant que certains prétendent plus long que celui de Carcassonne, c'est dire.
Marin, bien évidemment.
Marin, beaucoup de bord de mer, puisque je viens du monde de la planche à voile ou du windsurf, où j'ai commencé donc... Mon activité professionnelle, il y a maintenant 35 ans.
Et maintenant, vous êtes le président du conseil d'administration de l'École nationale de voile et des sports nautiques. Alors attention, là, c'est pas un club, hein, c'est très officiel.
Ah, c'est un établissement public qui dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports, et maintenant des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Qui se trouve à Quiberon.
Voilà, au Bégrohu, sur la baie de Quiberon, sur 7 hectares. Et c'est un établissement créé en 1970, absolument fantastique, avec 10 000 mètres carrés d'espace couvert pour accueillir plus de 140 bateaux ou engins nautiques de tous ordres. Et puis surtout une équipe de près de 50 personnes, pour la plupart des fonctionnaires d'État, qui travaillent à la fois aux questions de performance dans le monde de la voile et des sports nautiques, mais qui travaillent également à la formation de tous les personnels du ministère qui ont besoin à un moment de formation dans ce domaine.
Et comme c'est une école, on forme les sportifs de haut niveau, la preuve en est, 10 médaillés olympiques d'or sortent de cette école et 70% des skippers français sortent de cette école.
Tout à fait. Les 10 médaillés d'or au voile aux Jeux Olympiques sont passés par l'École nationale de voile et le revendiquent, puisque lors d'une cérémonie récente d'ouverture de l'allée des champions, la plupart, quasiment la totalité, je crois qu'il en manquait une, étaient présents pour remercier et célébrer l'École nationale de voile que l'on appelait l'ENV et qui est maintenant l'ENVSN. Alors c'est une activité bénévole, président du conseil d'administration.
Oui, parce que derrière tout ça, vous êtes un communicant, c'est pour ça que vous parlez aussi bien, vous êtes un communicant du maritime, vous travaillez à la promotion d'activités maritimes.
Oui, oui, c'est vrai, j'ai le bonheur, en effet, notamment pour le groupe Ouest France, de coordonner maintenant depuis de très nombreuses années, plus de 10 ans maintenant, les Assises de l'économie de la mer, que vous connaissez bien, José-Emmanuel, qui sont le rassemblement de toute la filière de tous les acteurs et actrices du monde maritime pendant 2 jours sur un lieu français. Et cette année, nous serons à Bordeaux au mois de novembre.
Et on le rappelle, le monde maritime est un monde porteur d'emplois.
Alors, dans tous les compartiments du jeu, que ce soit en production, dans les chantiers, chez les équipementiers et chez les navigants, absolument. Je pense à mes amis de l'École nationale supérieure maritime,
avec Havre, bien sûr.
Havre, Marseille, Nantes, Saint-Malo, qui ont doublé le nombre de diplômés en quelques années, qui font un travail absolument formidable. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner.
Voilà, un appel à la jeunesse. Le maritime recrute. Maintenant, Philippe Fourier, imaginons. Vous larguez les amarres. Où partez-vous? Pour quelle destination?
Alors, vraiment, réponse ainsi, il y a des îles que j'affectionne particulièrement, ce sont les îles Canaries, et une en particulier, Lanzarote. Donc je crois que je mettrai le cap sur Lanzarote.
Saint-Malo, Lanzarote,
j'achète.
Bon, voilà, si jamais il y a des boulinards et des voileux qui écoutent et qui ont besoin d'un équipier, Saint-Malo, Lanzarote, ça sera Philippe Fourier. Merci à vous, Philippe Fourier. Un site internet pour l'École nationale de voile et des sports nautiques, envsn.sport@gouv.fr. Bonne journée, Marion Lourd.
Bonne journée à vous, José-Manuel Lamarque. Il est 5h16.
Le 5-6. Sur France Inter.
Et à la une de la presse ce matin, retour sur ce discours européen du président de la République à la Sorbonne hier, en une du Parisien. Faut-il un bouclier antimissile, s'interroge le quotidien. C'est une des propositions du chef de l'État dans le cadre de cette initiative européenne de la défense qu'il a défendue hier. Pour l'opinion, Macron enterre l'Europe du XXe siècle. Selon le quotidien, le chef de l'État estime que les 27 n'ont plus à respecter ces règles fixées il y a des décennies et que les États-Unis bafouent souvent. On parle là de règles commerciales, bien sûr. Les Échos, eux, décrivent le sursaut, je cite, de Macron face au décrochage de l'Europe. Le chef de l'État juge qu'il faudrait doubler les investissements publics pour éviter que notre continent soit relégué. Il est question d'un investissement massif entre 650 et 1000 milliards venus du public et du privé. Les Échos qui, comme en Écho justement, consacrent leur plus gros titre de une à la Chine qui prend le pouvoir. Il s'agit d'automobile, l'auto chinoise qui, selon le quotidien économique, fait la démonstration de sa domination au salon de l'auto de Pékin, premier marché mondial. Le pays est désormais premier producteur et premier exportateur d'automobiles. Rien à voir, le cinéaste Laurent Canté occupe une bonne place aussi en une des journaux. Très beau portrait en noir et blanc pour le réalisateur d'Entre les murs en première page de Libération. Laurent Canté, la lutte classe, écrit Libération. Et c'est vrai qu'il était classe avant de nous quitter hier, chemise blanche et regard droit vers l'objectif, mort d'un cinéaste humaniste, annonce de son côté l'humanité. Et puis tout autre sujet, La Croix affiche en une un de ses 100 sites à sauver du patrimoine religieux. Belle vue intérieure d'un édifice qui a bénéficié d'une collecte nationale lancée en septembre. La Fondation du patrimoine vient de dévoiler les lauréats et on se dit ce matin que la vue de ces belles poutres de bois qui étayent la jolie église Saint-Pierre-Saint-Paul de Vallon de l'Erdre en Loire-Atlantique, et bien cette vue fait du bien. 5h18, la chronique de Cyril Lacarrière dans Zoom Zoom Zen, émission quotidienne d'Inter. Hier, il était question du marché du travail. Alors Cyril, ce fameux plein emploi, d'où ça sort et qui l'a inventé?
Connaissez-vous Arthur Cécile Pigou? Non, et c'est un tort, puisque c'est à cet économiste anglais qu'on doit l'apparition du terme plein emploi. Nous sommes en 1913 et Pigou écrit ceci, je le cite, « Le plein emploi existe toujours, ce terme étant interprété au sens large comme l'emploi de tous les gens désireux d'être salariés, moins ceux qui sont empêchés de l'être en raison d'une insuffisante mobilité et autres frictions semblables. » Fin de citation. Mais s'il est le premier à utiliser ce mot, ce n'est pas pour ça qu'Arthur Pigou va se faire un nom dans le bottin mondain des économistes, mais parce qu'il est le fondateur de l'économie du bien-être. Et parce qu'il est l'inventeur de la taxe Pigou. Et qu'est-ce que c'est la taxe Pigou ? Pour vous la faire simple, c'est le principe du taxeur-pollueur. Je m'écarte du sujet, j'en reviens au plein emploi. Si Pigou a été le premier à utiliser ce terme, c'est à un autre qu'on doit sa popularité.
Mais vous avez fait monter le suspense.
Oui, je sais, c'est terrible. Oui.
Qui est donc, Cyril ?
Un autre économiste anglais qui fut le collègue de Pigou à l'université de Cambridge. Il s'agit ni plus ni moins de l'économiste le plus influent du XXe siècle. Pas François Langlais, mais John Maynard Keynes. Et c'est dans les années 30 qu'il définit un peu plus clairement ce concept de Pigou. Pour Keynes, le plein emploi correspond à une situation où le chômage ne concerne que les personnes entre deux emplois et celles qui viennent d'entrer sur le marché du travail. Il ajoute que pour que la notion de plein emploi ait du sens, il faut qu'existe la possibilité d'un chômage involontaire. Ce plein emploi sera reconnu officiellement dans la période d'après-guerre, officiellement reconnu peut-être, mais est-ce que tout le monde s'est mis d'accord ? Oh que non, et c'est donc ce dont on va parler aujourd'hui. Alors justement, qu'est-ce que le plein emploi ? Comment y parvenir ? Est-ce que c'est un objectif réaliste ? Est-ce que c'est aussi devenu de la com politique ? Quel pays a effectivement atteint le plein emploi ?
Cyril Lacarrière dans Zoom Zoom Zen du lundi au vendredi à 16h sur Inter, présenté par Mathieu Noël. 5h20, elle est autodidacte, productrice, compositrice, interprète. Eloi et sa French Pop reviennent avec ce morceau, un titre utilisé déjà en son temps par Blondie, ça s'appelle Call Me. En ce moment pour la chanteuse, notamment pas mal de festivals. Si vous voulez la découvrir en concert, c'est le moment.
France Inter.
À 5h23, Tanguy Pastureau qui nous donne aujourd'hui quelques astuces en gestion de colère.
Ah là là, mais qu'est-ce que les gens sont énervés ? Pourquoi tout le monde ne peut pas être zen comme moi ? J'en peux plus de voir le niveau de tension qu'il y a dans la société. Tout ça, c'est à cause des réseaux sociaux, m'a dit récemment quelqu'un d'un peu âgé. Je lui ai répondu, pas seulement, Nagui. Ok, il joue un rôle. Parce qu'avant Internet, pour sortir sa rage, il fallait faire de la boxe ou crier. Moi, ado, j'avais une mobilette. Je partais rouler et comme le bruit du moteur masquait ma voix, je me mettais à hurler. Ça défoule, hein. Aujourd'hui, je le fais toujours, mais j'ai un scooter électrique. Donc les gens, ce qu'ils voient, c'est un type qui fait... sur un véhicule silencieux. Je vous cache pas qu'ils sont inquiets. Hein. Quand je passe, les cyclistes, les piétons, tout le monde s'écarte. Et alors, en 2024, on est toujours en 2024. Oh là là, que c'est long cette année, 8 mois avant Noël. J'en peux plus de ce quotidien 120 chauds ni pyrénéen. En 2024, pour se défouler, on va sur les réseaux sociaux. Nagui a raison. Première fois que cette phrase est prononcée en 10 ans d'émission. Alors, il y a du bon. Le mouvement MeToo Stand Up, par exemple, ça assainit le milieu. Et puis, ça libère de la place dans les théâtres pour les 3-4 qui ont réussi à laisser le kiki à la niche. Et il y a du mauvais. Les polémiques incessantes à propos de tout ou rien. Et les rumeurs débiles. J'ai même lu récemment que Jean-Michel Trogneux serait en réalité une femme qui s'appelle Brigitte Macron. Ça va loin quand même. Hein. Et quand je parle de polémique, vous connaissez Échappée Belle, l'émission de France 5. Ce sont des gens de télé comme vous, Leïla et Nagui, mais avec des vies réussies. Parce que quand vous êtes en studio dans le 15e ou en Seine-Saint-Denis, eux, ils sont au Costa Rica à compter les petits singes et les coups de soleil qu'ils ont sur la nuque. Hein, il n'y a pas de plus beau métier que présentateur des Échappées Belle. Quand Cominec est en spectacle à Dunkerque, eux, ils sont dans la baie de Rio à dire à des locaux, le string ici, c'est donc une institution dans une ambiance tellement sexuée que là-bas, Mico vend de la glace aux ovaires. Eux, ils n'ont pas de routine. Ils n'ont pas de routine, pourquoi ? Parce que le monde, c'est vaste. Comme le dit parfois Bernard Arnault en admirant les étendues de la Seine-et-Marne sur un vol Meaux-Paris de 4 minutes. L'un de ces chanceux, c'est Ismaël Khelifa. Et samedi, il nous a fait découvrir les EAU Émirats Arabes Unis. Hein, alors, super coin. Juste, il faut aimer les personnes d'origine arabe et la chaleur. Voilà, c'est une sorte de sauna multiracial avec des faucons dressés. Hein, donc, un mélange de culture queer et de puits du fou si la Vendée avait été touchée par le grand remplacement. Donc, je vous explique. Le présentateur fait visiter le pays, il discute avec des gens. Tout le monde est sympa, c'est le concept de l'émission. Voilà. Rarement, ils se rendent au sein d'une prison au Salvador pour discuter tatouage sur le crâne avec des chefs de gang qui les violent. Échappée Belle, c'est feel good. En Irlande, tu vois des types dans des pubs en train de danser et quand ils commencent à se frotter à la patronne en criant ras-le-bol de la gigue, place au quart d'heure Zouklov, bon bah là, ils coupent la caméra. En somme, on vend du rêve. Parce que la réalité, c'est qu'à toutes les entrées de ville du monde, il y a un magasin Jiffy et que les étrangers sont aussi cons que nous. Mais bon, si on dit ça, plus personne ne voyagera. Alors ok, la planète sera sauvée, mais ça va couler TripAdvisor. Ce qui fait que samedi, Ismaël Khelifa a tchatché avec des habitants, il a filmé le désert, il a assisté à une course de dromadaire. C'est ce qu'il y aura à l'hippodrome de Longchamp quand le Tard l'aura racheté. Et là, les téléspectateurs qui sont jaloux parce qu'eux sont dans leur vieux canapé but à Mont-de-Marsan et bah se mettent à critiquer l'émission sur X. Oui, les dromadaires, on leur donne des coups de cravache pour qu'ils avancent. Bah oui, c'est le même principe que ton mari quand un samedi soir tu voudrais qu'il se dépêche de monter en haut du donjon. Les mecs, ils vont pas pratiquer l'éducation positive sur les dromadaires. Se mettre devant eux les bras ouverts en disant drodro, ça ferait plaisir à papa si tu voulais bien leur mettre la pâtée sur la quatrième. Hein, les courses d'animaux, en général, tu forces l'animal parce qu'il y en a pas un qui va être assez dans la compète pour battre les autres. Cet esprit débile de sportif, il n'y a que nous qui l'avons. Il n'y a pas de JO des chats. Hein. D'autres, les spectateurs, reprochent à l'émission d'avoir dit que les Émirats étaient écolos, alors que non. Hein. Les mecs ont monté des pistes de ski indoor en plein désert. Tu passes de 45 degrés à moins 7. C'est le seul endroit du monde où Scorpion et Tartiflette cohabitent. Bon bah tout ça est moins durable que la liquette à 3 jours en fast fashion de ta petite poufiasse de cousine. Et enfin, on reproche à Échappée Belle de ne pas avoir parler de la charia, ni de l'impossibilité de dire du mal du pouvoir. Alors je comprends, moi aussi j'ai des valeurs humanistes très fortes, en tout cas au micro de France Inter. Ensuite je fais comme tous les autres ici, hein, je vote à droite et je roule un SUV. Mais cette émission, si elle dit la vérité sur les pays visités, elle coule. Vous imaginez le présentateur dire, eh bien nous voilà en Islande, c'est quand même bien paumé, les gens sont rougeâtres et les geysers m'ont cul, le jour où ma chasse d'eau a fui c'était plus impressionnant. Alors aujourd'hui nous sommes en Hollande, très surcoté, hein, y a encore plus de types défoncés qu'à Rennes. Et à titre personnel, je me suis fait voler mon vélo par une racaille. Hein, moi, je serais pour ce concept, hein, parce que je déteste qu'on me mente. Mais la plupart des pays sont soit des dictatures, soit des démocraties déguisées. Donc, Échappée Belle à terme, il ferait plus que la région Occitanie. Et encore, le projet de la 69, il y a eu moins de concertation qu'en Corée du Nord. Alors, fin de l'histoire, Ismaël Le Routard a réagi sur Instagram. Il a écrit « Ce n'est pas parce qu'on va dans un pays qu'on valide tout ce qui s'y passe. » Alors. Si, quand même, ça s'appelle le tourisme responsable, mais bref. Alors, longue vie aux Échappées Belles, qui est une chouette émission. Elle est belle, même s'il devrait dire la vérité. Notre planète, globalement, est nulle.
Merci.
Tanguy Pasturo, c'était hier dans la bande originale. De retour à 11h aujourd'hui avec Nagui.
1804, l'exécution du duc d'Enghien.
Dimanche, 21h, Stéphanie Duncan.
En mars 1804, Bonaparte faisait enlever et fusiller ce prince de sang, et deux mois plus tard, il proclamait l'Empire.
Nous sommes là pour exécuter la sentence. Et je voudrais voir le général Bonaparte et lui parler. Cela ne se peut pas. Mais...
Autant en emporte l'histoire.
Tous les dimanches à 21h sur Inter et en podcast quand vous voulez.
5h29, dans une minute le journal, mais avant ça, Ali Badou m'a rejointe. Bonjour Ali.
Bonjour Marion.
Et on présente la matinale ensemble de 6h à 9h en cette fin de semaine.
Avec au programme à 6h20, votre invité Marion en pleine campagne pour les élections européennes et au lendemain du discours de la Sorbonne du président de la République hier, ce sera le ministre en charge de l'Europe, Jean-Noël Barrot. À 7h45, rendez-vous avec le débat éco du vendredi, Dominique Seux face à Thomas Porcher pour débattre justement de la vision économique de l'Europe que présentait hier Emmanuel Macron. Et à 8h20, l'invité du grand entretien, s'il est professeur au Collège de France, William Marx viendra nous parler d'un chef-d'œuvre de la littérature, Don Quichotte. Il publie Un été avec Don Quichotte aux éditions...
Aux éditions, je ne me souviens plus, mais France Inter. C'est France Inter et autre chose, Équateur.
France Inter et Équateur, absolument. Exactement. Donc voilà pour le programme. Il est
5h30.
Voilà.
À tout à l'heure, Ali.
À tout à l'heure.
À 5h30, c'est le journal. Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Marion, bonjour à tous. Israël a bombardé plusieurs secteurs de la bande de Gaza, comme la ville de Rafah, où l'armée se prépare à une opération terrestre dans sa guerre contre le Hamas palestinien, malgré les mises en garde de la communauté internationale. L'université de Columbia à New York, visée par une plainte pour violation des droits civils après l'arrestation d'étudiants pro-palestiniens la semaine dernière. Une plainte déposée par Palestine Légale, association qui défend le droit des Américains de s'exprimer au nom des Palestiniens. Les manifestations sur les campus américains se multiplient depuis ces arrestations. À Austin, Los Angeles, Boston ou Atlanta, la police a utilisé des agents chimiques irritants pour déloger les manifestants. Et à l'instar de plusieurs universités américaines, quelques dizaines d'étudiants de Sciences Po Paris ont décidé d'occuper un nouveau bâtiment de leur école hier soir en soutien aux Gazaouis. Les verdicts de printemps des agences de notation Moody's et Fitch sur la dette souveraine française sont attendues ce soir. Elles actualiseront toutes les deux leur note de la dette, moins d'un mois après l'annonce du dérapage du déficit public et alors que la nouvelle trajectoire budgétaire du gouvernement a été remise en cause très récemment par la Cour des comptes. Et dans ce contexte d'une possible dégradation de la France par les agences de notation, les cliniques privées promettent un bras de fer avec le gouvernement. La FHP, la Fédération de l'hospitalisation privée, annonce une grève totale à partir du 3 juin jusqu'au 5. Grève renouvelable. Consciente des contraintes budgétaires, elles veulent non pas plus d'argent, mais une meilleure répartition de l'enveloppe entre public et privé. L'exécutif a choisi d'augmenter que très légèrement seulement les prix payés pour les interventions réalisées dans les cliniques, quand dans le même temps, les tarifs vont augmenter de 4,3% dans le secteur public. Par exemple, les tarifs d'une appendicite, d'une prothèse de hanche sont fixés par l'État, 30% moins chers qu'à l'hôpital public. Autrement dit, explique le président de la FHP, plus le privé travaille, plus il fait faire des économies à la sécurité sociale. Le mouvement prévoit d'être très, très suivi et il est soutenu, Victor Dolande, par 5 des 6 syndicats de médecins libéraux.
La situation est inédite. Jamais le privé n'avait prévu une telle grève. À partir du 15 mai, les chirurgiens des cliniques privées vont informer les patients. Les opérations prévues la semaine du 3 juin seront reportées et les services d'urgence seront également fermés. Lamine Garbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée, veut montrer au gouvernement que le secteur privé est essentiel dans le système de soins.
55% de la chirurgie est réalisée dans le privé, 40% de la cancérologie également. On prend en charge 9 millions de patients. Donc si on doit encore aujourd'hui expliquer notre rôle fondamental en tant que mission de service public, j'en suis désolé. Sur le terrain, nous le savons tous, et la complémentarité se passe bien. Je ne peux pas accepter qu'il y ait cette dichotomie de traitement où c'est tout pour le public et rien pour le privé.
Les médecins libéraux seront également en grève car ils travaillent aussi dans ces cliniques privées. Ils veulent marquer le coup à l'image de Philippe Cuc, coprésident du syndicat de médecins spécialistes Avenir Spé
Le
Bloc.
Le secteur libéral a fait la preuve de son efficacité. Et donc là aussi, c'est pas une compétition
entre public et privé. C'est au contraire une synergie. Mais aujourd'hui, il y a trop de contraintes, trop de différences de tarifs pour le secteur libéral. Et donc, nous ne pouvons pas continuer comme ça.
Le secteur privé réclame une augmentation de 500 millions d'euros pour l'année 2024. Mais pour le moment, le gouvernement n'est pas prêt de céder.
Victor Dolande. Après le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe, les têtes de liste du RN, de LR et du parti d'Éric Zemmour redisent leur conservatisme sur les questions sociétales. Lors d'un grand oral organisé à Paris par le syndicat de la famille, ex-manif pour tous, Marion Maréchal, candidate de Reconquête, est revenue sur l'inscription hier par le Parlement européen de la GPA comme pratique relevant de la traite des êtres humains, au même titre que l'esclavage ou la prostitution. Un texte qui doit encore être adopté par le Conseil européen et qui, selon elle, ne va pas assez loin.
Malheureusement, le texte qui a été voté au Parlement européen ne peut empêcher demain la potentielle légalisation de la GPA dans d'autres pays européens et en particulier la France, puisque si la gauche a accepté ce compromis, c'est parce que la GPA telle qu'elle est interdite dans le texte ne s'applique aux GPA issues de traites humaines et donc d'exploitation avérée, c'est-à-dire forcée. Accepter cette pratique, même faite de manière indirecte à l'étranger, c'est donc dire à la femme que je suis qu'elle est un objet à louer, que l'enfant qu'elle va concevoir et porter peut être un objet de contrat. Voilà, n'acceptons jamais cela et menons le combat chaque fois qu'il doit être mené face à la banalisation. C'est une question de principe, je vous le dis, je continuerai à affirmer qu'il n'y a pas, dans aucun cas, de GPA éthique.
Marion Maréchal, dont on va parler justement la chronique de Charlotte Chaffanjon, Histoire politique à 7h moins le quart, qui sera consacrée notamment à cette politique de la GPA, vue par Marion Maréchal.
Et puis encore un mot pour vous dire que la flamme des Jeux Olympiques de Paris 2024 sera aujourd'hui dans les mains des Français. Elle sera remise aux organisateurs lors d'une cérémonie à Athènes, avant d'embarquer le lendemain, donc demain, à bord du 3 mois, le Belém, pour rejoindre Marseille.
C'était le journal de Laurence Thomas. La météo de ce vendredi, pour ceux qui vont naviguer avec la flamme et pour les autres, de la pluie qui tombe mais des températures qui grimpent. Voilà le programme. Quelques averses, parfois soutenues, de la Provence à Auvergne-Rhône-Alpes, moins abondantes de la Touraine à la région parisienne et aux Ardennes, et de belles éclaircies sur le Languedoc-Roussillon et la Corse. Prévoyez un peu de neige sur le massif central et les Alpes au-dessus de 1300 mètres. Il fait moins froid quand même ce matin, souvent 3 à 10 degrés. Cet après-midi, temps variable, attention aux orages qui vont circuler de l'ouest au centre Val de Loire dans la journée. Côté Mercure, ça remonte, mais on reste sous les moyennes de saison. 12 à Langres et Rodez, 15 à Lille, La Roche-sur-Yon et Limoges, 16 à Paris, Lyon et Marseille et 19 à Ajaccio.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure de nous plonger dans la playlist de France Inter et de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Et ce matin, une fois n'est pas coutume, vous nous parlez d'un concert, un live du passé.
Eh oui. C'est l'histoire d'un concert qui est entré dans la légende du rock. Allez, n'ayons pas peur des mots. Comme l'enregistrement Unplugged de Nirvana ou encore le Live at Folsom de Johnny Cash.
Ah oui.
C'est la rencontre d'une salle, d'un son, d'un public particulier et ce moment juste où l'artiste se trouve en pleine possession de son art. Le 24 juillet 97, vous vous souvenez, vous étiez ?
Oh, j'étais un peu jeune.
Ouais, le groupe anglais Portishead, lui, était au Roseland Ballroom de New York avec un orchestre de 28 musiciens. Cordes, cuivres, claviers Moog, c'est ça que vous entendez là, hautbois sans oublier bien sûr, platine, basse, batterie. Tout ça pour faire entendre une musique que beaucoup à l'époque croyaient faite surtout par des machines, par un savant montage. Et pourtant, il fallait bien se rendre à l'évidence, cette atmosphère si singulière, Portishead pouvait non seulement la rejouer sur scène, mais l'augmenter, l'emmener partout où il voulait, d'un thème de cinéma à un hip-hop nourri de dub, porté par une voix de tragédienne.
Yeah.
La voix de Beth Gibbons et ce live de Portishead s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires depuis sa sortie.
Ouais, pas mal, hein. À l'occasion du 25e anniversaire de sa sortie, l'album a été remasterisé, réédité avec quelques versions supplémentaires. Alors avant d'y venir, puisque vous avez prononcé son nom, Beth Gibbons, la chanteuse de Portishead, elle a marqué l'époque et elle continue de le faire. Hein. Je vous avais parlé récemment de son Floating on a Moment qui passe régulièrement sur cette antenne. On attend son prochain album qui est prévu pour le mois de mai et elle sait, comme peu de chanteuses, concentrer l'attention et bien sûr il y a des moments que le public attend comme celui-ci où on retient son souffle. I just wanna be une des plus belles montées de cordes, une de ces tensions irrésistibles du concert. Ah, oui. Je vous fais pas plus attendre et je vous fais écouter un des inédits. C'est un morceau qui se trouvait que dans le film du concert. C'est la version de Western Eyes. C'est un titre dont le texte est très dur. Il parle des désillusions, de l'hypocrisie, de l'Ouest et de ses valeurs auxquelles il ne tient plus. On se croirait un peu chez Gainsbourg ou Hitchcock. Et c'est encore autre chose avec la voix de Beth Gibbons et l'orchestre réuni autour de Geoff Barrow et Adrian Utley, Portishead.
With western eyes and serpent's breath, we lay our own conscience to rest, but our maker at the view. Yes, I'm breaking.
Portishead, le concert de Roseland, remasterisé pour son 25e anniversaire et qui ressort aujourd'hui. Merci Mathieu.
Mais je vous en prie.
On vous retrouve vendredi prochain.
Et avec joie. Et vous savez que ce soir, France Inter vous emmène aussi en concert, en direct du Printemps de Bourges, avec Laurent Goumard de 21h à 23h.
Et on va écouter ça. 5h41, zoom ce matin sur les champs Flegrei 1 au sud de l'Italie. C'est une vaste zone volcanique où habitent 500 000 personnes, une zone qui inclut une partie de Naples. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Correspondant de France Inter en Italie, Bruno, la Terre se fait à nouveau très menaçante dans cette région depuis septembre dernier avec des séismes à plus de 4 degrés de magnitude. Vous êtes allé à Pozzuoli, ville de 80 000 habitants au cœur de cette zone fragile.
Giovanna se remet de ses émotions au soleil sur le vieux port de Pozzuoli. La veille, magnitude 3,2 à l'heure du réveil.
Hier, ça a été terrible. Il y a eu un rugissement très fort. La maison très sautait. On habite au 4e étage. On a eu très peur.
Giovanna habite près d'une des zones les plus actives. Elle a pris l'habitude des montées de stress.
Avant une secousse, il y a une odeur de soufre puissante. Hier, l'odeur était très forte et elle l'est restée toute la journée.
Dans le vieux port, avant, l'eau arrivait jusqu'aux murailles de la citadelle qui le borde. Désormais, il est quasiment à sec car la terre se soulève. Un seul pêcheur en activité reste ici.
Je m'appelle Mario.
Pour rejoindre Mario, il faut se frayer un chemin entre les pierres humides. Il était en mer la veille quand la terre a tremblé.
Hier matin,
oui, je l'ai senti, comme quand les pêcheurs travaillaient à l'explosif.
Pozzuoli a toujours vécu avec cette menace. Dans les années 80, Mario, comme la moitié des habitants de la ville, a dû déménager. Une partie de la cité devenait trop dangereuse. Il se souvient de ses logements provisoires dans lesquels il a passé un bout d'enfance.
Il faisait chaud là-dedans et ça puait. C'était les tentes militaires vertes d'autrefois. Les personnes étaient amassées. Si je devais revivre ça, ce serait dramatique.
C'est dans le nouveau quartier, sur les hauteurs, que le maire Luigi Manzoni a réuni une pléiade de secouristes pour examiner le plan en cas de séisme majeur. On parle rupture de communication, évacuation des écoles. On en est au stade jaune. À l'orange, on évacue.
On est très loin de l'alerte orange. Mais les lieux d'évacuation sont prêts, du côté de Caserte, à proximité. Et on sait quels hôpitaux peuvent accueillir les patients. Ça, c'est pour le risque bradisismique. En cas d'alerte volcanique, la zone d'évacuation serait en Lombardie.
À l'autre bout du pays, donc.
Car en fait, les habitants de Pozzuoli vivent avec deux menaces, séisme et éruption volcanique.
Leur ville est dans un vaste cratère formé il y a des milliers d'années. Sous leurs pieds, il y a 70 bouches éruptives. C'est cela, les champs phlégréens. Cette activité volcanique provoque des mouvements de roches. La terre s'abaisse ou se soulève. C'est le bradyséisme. Tout est suivi à l'observatoire du Vésuve à Naples. Le Vésuve donc, mais aussi les champs phlégréens qui avaient fait sonner l'alarme la veille. Le directeur Mauro Di Vito est devant un écran plein de cercles.
Là, vous voyez ceux du dernier séisme, celui d'hier, 11 secousses. Depuis qu'a commencé la dernière crise, en 2006, le sol s'est soulevé de 121 cm. On suit ce phénomène de très près parce qu'il nous donne des indications sur l'évolution du magma qui, des profondeurs, pourrait remonter à la surface.
Hypothèse très lointaine à ce jour. Mais à Naples aussi, on se prépare au Big One. Ce jour-là, une centaine de volontaires de la sécurité civile participent à une formation. Maria vient de Pozzuoli pour suivre la leçon.
Il ne faut pas garder l'idée que nous sommes fatalistes à attendre qu'il se passe quelque chose, non. Il faut être informé, actif et conscient. Tu ne peux pas déraciner un peuple entier, lui dire « Basta, tu habites dans un volcan, tu dois partir », ce n'est pas possible.
Face à Pozzuoli, dans la baie, une ville antique a été engloutie par les eaux au fil de l'histoire tumultueuse des champs phlégréens. La beauté a cédé face au danger.
Naples qui se prépare au Big One en Italie, tremblement de terre géant. C'est un reportage Zoom de Bruno Duvic à retrouver sur l'application France Inter.
France Inter. Marion Lourd. 5-6.
Et à 5h46 sur France Inter, on décroche notre téléphone pour appeler notre invité déjà debout, Xavier Klein, auteur du livre Réveil matinal, vie maximale. Bonjour.
Bonjour Marion Lourd.
Alors je précise qu'il y a un petit délai, peut-être parce que vous êtes à La Réunion, hein, dont vous êtes originaire et où vous résidez actuellement. Il est 7h45 chez vous, c'est pas si tôt, mais quand même une question rituelle. Pourquoi est-ce que vous êtes déjà debout ?
Alors oui, effectivement, il est 7h45, mais je suis debout depuis 4h30, comme à peu près tous les jours.
Bravo.
Parce que, tout à fait, moi après, je n'ai aucun mérite parce que je le fais avec grand plaisir, c'est devenu une habitude de vie. Et c'est une habitude qui justement que j'ai développée pour me donner la priorité et prendre soin de moi et de mes objectifs dès le matin et être sûr que tout est fait et ne pas être soumis aux aléas de la vie ensuite dans la journée.
Vous êtes assistant d'éducation dans un collège, suite de votre fils. Vous vous destinez au métier d'enseignant, vous préparez un CAPES de maths. Et puis, le matin, vous faites du sport aussi, donc.
Oui, tout à fait. En fait, le matin, j'ai établi un programme qui correspond à ce que j'ai envie de faire, moi, profondément, et qui correspond à mes objectifs, et notamment celui de faire du sport ou de faire des étirements un peu tous les jours, parce que j'aspire à avoir un corps en pleine santé le plus longtemps possible. Et également, je me dégage du temps pour préparer mon concours ou pour préparer un bon petit déjeuner pour mes enfants. Enfin, vraiment, pour faire les choses qui sont importantes à mes yeux.
Vous, vous avez 40 ans, vous avez une vie active. Je le disais, vous avez un enfant, vous en avez même deux, en fait. Et vous êtes aussi donc un fervent défenseur des réveils matinaux. On l'a bien compris, et peut-être que certains de nos auditeurs à l'écoute en ce moment vous comprennent. Vous avez donc écrit un livre sur ce sujet. C'est parti d'où, cette idée d'écrire un livre sur le sujet des réveils matinaux?
Alors... j'étais moi-même convaincu par la méthode, parce que l'ayant utilisée pendant quelques années pour moi-même subir une transformation physique et mentale complète qui a fait que je me sens beaucoup mieux dans ma vie aujourd'hui.
Mais vous avez eu un déclic un jour?
Oui, tout à fait.
C'était avant l'arrivée de mon enfant.
C'est ça.
Bah, racontez-nous.
C'est pas tant que je devais me réveiller plus tôt, mais j'ai eu un déclic à l'arrivée de mon enfant et honnêtement, je me sentais pas très bien dans mon corps et dans ma vie. Je me suis dit, il faut que ça bouge. Et j'ai commencé à prendre des bonnes habitudes et je me suis rendu compte, j'étais déjà matinal, mais je me suis dit, ben tiens, c'est un super moment pour faire les choses qui sont importantes pour moi, notamment faire du sport, bien préparer à manger et lire, enfin faire des choses qui sont importantes pour moi. C'est devenu une habitude et lorsque j'ai eu l'opportunité, et je me suis dit un jour, ben les étoiles sont alignées, j'ai toujours eu envie d'écrire un livre. Pourquoi pas ne pas le faire maintenant et en plus faire ça sur un sujet qui me tient à cœur et dont je sais qu'il peut apporter énormément à des personnes, justement en leur apportant les clés pour se réveiller plus tôt et pour redonner la priorité à leur temps et à leur vie pour qu'elles avancent et qu'elles se sentent mieux, qu'elles avancent vers ce que j'appelle moi une vie maximale.
Donc on l'a compris, pour vous le programme c'est à la fois du sport, du travail, éventuellement de la cuisine, enfin tout ce que vous avez envie de faire en réalité. C'est quoi le secret? Alors si on devait donner des conseils à nos auditeurs là, qui écoutent en ce moment, c'est quoi le secret du réveil matinal et du bon réveil matinal d'après vous?
Alors, le secret du réveil matinal, il est très simple pour moi. C'est il faut simplement qu'il y ait un pourquoi très fort. Si on ne sait pas pourquoi on doit sortir du lit, ça ne marchera jamais. On donne souvent l'exemple quand vous devez prendre la veille des vacances. Vous savez que vous partez 3 semaines au Costa Rica le lendemain. Le soir, vous avez même du mal à vous endormir. Et le matin, ça ne vous pose aucun problème de vous réveiller à 2h, 3h du matin pour aller à l'aéroport. Eh bien là, c'est pareil. Il faut que vous ayez fait un travail de fond pour savoir pourquoi est-ce que vous allez vous réveiller tôt le lendemain et pourquoi c'est important pour vous de vous réveiller pour faire ce que vous avez décidé de faire. Moi, je décide de me réveiller tôt pour faire du sport parce que je veux avoir un corps de 40 ans à 70 ans et être en forme pour mes enfants et mes petits-enfants plus tard. Voilà. Donc ça, c'est un pourquoi très, très fort et ça m'aide à me réveiller le matin. Mais le pourquoi est très, très personnel et chacun vraiment doit faire ce travail d'introspection et se réveiller pour ce pourquoi il a réellement et profondément envie de se réveiller et pour les choses sur lesquelles il a profondément envie de travailler.
Donc si
tout vient de là, en fait.
Si je vous comprends bien, quand on a le pourquoi, on a résolu la question du comment se lever tôt.
Exactement. Il y a une citation de je ne connais plus l'auteur qui dit « Si vous trouvez le pourquoi, le comment deviendra très, très facile. »
Et donc, c'est quoi leur idéal? Leur idéal de réveil, alors?
C'est celle qui vous correspond à vous. La règle d'or du matin, pour moi, c'est « Fais ce que tu veux, tout ce que tu veux et rien que ce que tu veux. » Et en fait, si on a décidé de se réveiller plus tôt pour lire 5 minutes, c'est aussi valable et très puissant que celui qui veut se réveiller 2 heures plus tôt pour aller courir 2 heures. Enfin bref, c'est chacun décide de ce qu'il a envie de faire, la durée de la durée que ça va durer. Et c'est vraiment chaque personne qui décide dans son fort intérieur en fonction de ses objectifs. Et la durée idéale correspond à ce que nous, on a envie de faire et ce qu'on est capable de tenir de la durée aussi, surtout.
Xavier Klein, auteur du livre « Réveil matinal, vie maximale », invité de ce Déjà Debout. Merci pour vos conseils et merci d'avoir appelé France Inter. Si vous aussi, chers auditeurs, vous voulez intervenir dans notre rendez-vous, une adresse email, c'est le 5-7@radiofrance.com. Les petits bateaux avec Camille Cronier. Les enfants qui s'interrogent et vous appellent. Aujourd'hui, une question du petit Mika, question de saison puisqu'on parle de papillons. Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, venez, on vole au milieu des fleurs.
Bonjour, je m'appelle Mika. J'ai 5 ans et demi et je voudrais savoir pourquoi les papillons sont si beaux. Merci, au revoir.
Et j'entends des petits oiseaux, je crois, derrière toi. C'est joli comme ta question, Mika. Pourquoi les papillons sont-ils beaux? François Lasserre, vous qui êtes entomologiste, donc spécialiste des insectes, avez-vous une réponse?
Eh bien, Mika, ça veut surtout dire que toi, tu trouves certains papillons, d'ailleurs je ne sais pas lesquels tu parles, toi, tu les trouves beaux.
Mais c'est vrai que la plupart des humains aiment bien les papillons, en tout cas les grands papillons dits de jour, ceux qui vivent de jour, qu'on appelle les papillons diurnes. C'est vrai qu'ils sont plus aimés que d'autres. Eh bien, je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que ça ressemble à du tissu, à des toiles, à des tableaux, à des peintures que nous, on serait capable de faire ? L'évolution nous a fait particulièrement aimé ces papillons. Et c'est vrai que même chez les entomologistes, les gens qui travaillent sur les insectes, alors ça commence à changer, mais il y avait beaucoup plus de personnes qui s'intéressaient aux papillons qu'aux petites mouches noires, par exemple. Et ça venait beaucoup de cet attrait de ce que tu décris, là. On les trouve hyper beaux. Alors, moi, je trouve ça, je les trouve hyper beaux, ces papillons diurnes, mais je trouve aussi les papillons nocturnes hyper beaux. Tu vois, ça dépend un peu des goûts. Et en France, il y a 5000 sortes de papillons.
5000 ?
Et il y en a seulement 200 qui sont diurnes avec des grandes couleurs, avec des couleurs. Les autres vivent plutôt la nuit, ne sont pas très colorés. Moi, je les trouve aussi très, très beaux. Puis j'ai fini par trouver magnifique un frelon, une punaise, une mouche. Donc, le beau, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui ne l'est pas, ça dépend des gens, mais c'est vrai quand même, Mika, tu as raison, la plupart des gens aiment bien les papillons.
Et question, pourquoi les papillons de jour ont plein de couleurs et pas ceux de nuit ? C'est pour se camoufler ? C'est pour pouvoir être raccord avec des fleurs pour ceux du jour et ne pas se faire voir la nuit pour les autres ? C'est quoi ?
Excellente question. Eh bien, la journée, on peut se voir. Donc, on peut utiliser la vue et on peut voir des couleurs. Donc, quand vous recherchez, quand un mâle va rechercher une femelle, par exemple, ben, il va pouvoir la repérer grâce à la vue. Alors que la nuit, il n'y a on voit quasiment plus de couleurs. Les insectes arrivent à voir des choses que nous, on ne voit pas, des ultraviolets, par exemple. Mais sinon, si vous êtes très coloré, ça sert un peu à rien la nuit. Donc, ils vont se repérer autrement, surtout avec des odeurs, par exemple.
Et si on est très coloré la nuit, peut-être qu'on va se faire voir aussi par des prédateurs, non ?
Non.
On va se faire repérer ?
Non, il y a très peu d'animaux qui utilisent des couleurs qui vont être utilisées la nuit. En revanche, les papillons dits de nuit, nocturnes, certains ont des couleurs très ternes, mais qui leur permettent de ne pas être vus en journée. Par exemple, justement, ils n'ont pas de couleurs, donc quand ils sont collés sur un tronc d'arbre, on ne les voit pas du tout. On croit que c'est du lichen ou de la mousse. Et du coup, ils peuvent passer la journée tranquille sans se faire manger par des prédateurs. Et la nuit, ils sortent, mais ils vont se repérer grâce à des odeurs.
D'accord, donc leur camouflage, on va dire en tout cas leur parure, a des fonctions suivant l'espèce, quoi.
Complètement, et pour les papillons nocturnes, leur parure sert surtout à être camouflée pendant la journée, quand on voit les couleurs. Et ceux qui vivent dans la journée, ben, souvent vont utiliser la couleur pour se repérer entre mâles et femelles de la même espèce.
Et plein de chercheurs travaillent sur l'origine des couleurs et les motifs des ailes. On n'a pas fini de parler papillons, donc salut les matelots.
Salut
les matelots, Camille Cronier, on vous retrouve à 20h05 pour réécouter la question du jour au moment de se brosser les dents.
France Inter, le 5-6.
Et au petit matin, c'est l'heure d'un café philo, de voyager aussi un peu. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Marion Lourd.
Vous nous parlez du dernier livre de Roger-Paul Droit, « Voyager dans les philosophies du monde », paru chez Albin Michel dans la collection Espace Libre.
Il s'agit d'un parcours à travers la pensée des autres, à condition évidemment qu'ils soient philosophes. On pense trop souvent encore que la philosophie ne peut être que grecque. Eh bien, personne dans le monde médiéval, par exemple, n'aurait eu l'idée de refuser aux penseurs arabes, aux penseurs juifs, le titre de philosophe. Et si des divergences existaient, si elles peuvent toujours exister évidemment, c'est entre philosophe et entre philosophie, pas entre une philosophie close et son extérieur, écrit l'auteur. Ce qui compte, c'est d'interroger la pensée et de faire usage de la raison, même dans le cadre d'une croyance.
Et pourquoi les philosophes, d'ailleurs, sont-ils si peu étudiés en classe ?
Eh bien, justement, ma chère Marion, les choses changent et Roger-Paul Droit s'en réjouit. C'était il y a 2 ans.
Je veux souligner que pour la première fois cette année, 4 auteurs non européens figurent parmi les philosophes du baccalauréat, ceux qui peuvent donner lieu à des études. Il y a Zhuangzi, celui que nous appelions autrefois Chuang Tzu, le grand taoïste, une sorte, à mes yeux, de Nietzsche de la Chine antique, avec une prose absolument extraordinaire, une sorte de sens de la provocation inouïe. Il y a, dans les auteurs aussi maintenant officiels, Nagarjuna, grand logicien bouddhiste, une sorte d'hyper-sceptique, dialecticien redoutable et très intéressant, qui a été commenté au Japon, en Chine, ensuite pendant des siècles. Il y a Maïmonide, le grand médecin juif, diplomate, écrivant à la fois en arabe et en hébreu. Et puis, il y a Avicenne, médecin, diplomate, philosophe, lecteur d'Aristote, en pays musulman. Et voilà, ce sont ces voyages-là qui nous font changer de tête, où je veux accompagner le lecteur, une sorte de guide, un guide aussi simple, accessible et utile que possible.
Un guide, eh bien, vous voyagerez en le lisant et vous apprendrez. Exactement, et vous apprendrez peut-être à penser autrement.
Ce que j'ai voulu, avec l'idée d'entrer dans les têtes, c'est une boussole donc, mais c'est montrer les axes. C'est montrer comment fonctionne culturellement et philosophiquement tel ou tel type de pensée. Et ça, il me semble que c'est plus utile pour les lecteurs que d'aligner des pages d'encyclopédie, essayer d'entrer et d'expliquer de la manière la plus exacte, j'espère, mais aussi la plus simple possible.
Le philosophe Roger Paul Droit dans votre café philo, Patricia Martin. Pas d'heure philo ce soir,
et non,
direct du Printemps de Bourges avec Laurent Goumard, un concert à partir de 20h10. On se dit donc à vendredi prochain.
À vendredi prochain, merci Marion.
Merci.
France Inter. Abonnez-vous au newsletter.
Chaque jour, l'essentiel d'Inter dans votre boîte mail. Chaque semaine, le meilleur de l'humour et nos conseils culture.
Pour recevoir nos newsletters, inscrivez-vous sur franceinter.fr.
Il est 5h58.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Ça se réchauffe, Elodie Calac.
Des averses et quelques degrés de plus. Le réveil est bien encombré avec quelques averses. L'instabilité va se renforcer cet après-midi. Les averses pourront s'accompagner d'orages, en particulier des Pyrénées au nord-ouest. Ça n'empêchera pas des éclaircies appréciables, surtout dans l'est de l'après-midi. Le soleil fait de belles apparitions ce matin des Pyrénées au Languedoc-Roussillon, en Corse également, et puis sur le littoral atlantique pour cet après-midi. Les averses sont tout de même plus marquées ce matin de la basse vallée du Rhône et de la Provence vers les Cévennes. Ce sera le cas à l'est du Rhône cet après-midi. Il neige autour de 1300 à 1500 mètres sur les Alpes et le Massif central. Les températures remontent doucement. Plus de gelée en plaine ce matin, comptez souvent 3 à 10 degrés. Et puis cet après-midi, il fera 12 à 16 degrés au nord et 14 à 19 au sud.
Merci Elodie Calac de Météo France. Bonjour et bon réveil. Ali de retour. Ali Badou est de retour.
Je suis là, Marion. Vous êtes